Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Vous publiez vos mémoires, Henri Leclerc, qui s'appelle « La parole et l'action » et qui paraissent aux éditions plurielles, mémoire dans laquelle vous consacrez une vingtaine, 25 pages à cette affaire. Alors j'avoue que j'ai été quand même surpris que vous ayez accepté de débriefer cette histoire qui a plus de 30 ans. C'est donc qu'elle vous a marqué, peut-être plus que d'autres ?
Ah oui, c'est une histoire qui m'a marqué. Pourquoi ? Parce que au départ, n'est-ce pas, nous sommes en face d'une affaire abominable. Enfin, on est tous émus. Moi, toute ma vie, je garderai l'image de la photo de cette petite fille. Vous savez, une petite fille de 7 ans qui était édentée. Elle avait perdu ses dents de lait. Bon, et vraiment, ce visage m'a bouleversé. Et voilà quelqu'un qui avait avoué. Donc, c'était terrible. Et quand son frère m'a demandé de le défendre, j'ai accepté. Mais c'est lourd. C'est-à-dire que quand on accepte une affaire comme celle-là, qui est, en plus de cela, vous avez l'opinion publique, une violence inouïe dans la presse. Et je dirais qu'on sent la même réaction. Et moi, j'ai vu le dossier. C'était terrible. Alors, quand j'ai vu les aveux, mais surtout les témoignages, etc., c'est-à-dire que j'ai fait le même chemin que celui que fera par la suite Lionel Duroy, et que fera le juge d'instruction, d'ailleurs, à la fin du dossier. Mais là, j'ai été ébranlé. Et puis, quand j'ai été le voir, je me suis rendu compte que, dans les questions que je lui posais, d'abord, il était certain que ces aveux étaient de faux aveux, on peut s'interroger là-dessus, mais... Et en même temps, j'ai été convaincu qu'il était innocent, très vite.
Par lui ?
Oui, par lui, pas par ses affirmations d'innocence. Quand on est un vieil avocat, vous savez, les affirmations...
Ah, vous aviez 45 ans à l'époque, vous n'étiez pas un vieil avocat.
J'avais un peu plus, quand même.
Un peu plus,
j'avais 50...
Et des poussières.
J'avais 50 et quelques années. Bon, mais c'est pas grave. Quand on est un jeune avocat, on sait pas bien, mais au fur et à mesure que la vie se déroule, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui nient les faits. Oui. Et puis on a le dossier, on est obligé au bout d'un moment de leur dire, écoutez, ouais, vous niez les faits, mais moi je peux pas vous défendre sur cette base. Bon, ouais. Bien.
Là, non. Mais jusqu'à quel point est-il malade psychiatrique quand vous parlez
lui ? Certainement pas. Moi, je suis convaincu que Richard Roman n'est pas un malade psychiatrique. Ses séjours à l'hôpital psychiatrique avant, non, c'est pas sérieux. La vérité, c'est que c'est cette affaire qui l'a rendu fou.
D'accord.
Car en fait, vous imaginez, voilà un homme accusé de la plus horrible des choses et qui a été amené à voir. Alors, pourquoi il avoue ? Alors ça, vous savez, on peut en discuter longtemps. Mais cette histoire est très caractéristique. Il est seul dans la gendarmerie. Il y a Gentil à côté qui l'accuse.
Oui.
Mais lui et Gentil l'accuse. Et Gentil, dans son idée, c'est... Il sera condamné pour le viol, d'accord, mais pas pour le meurtre. Et donc, il ne sera peut-être pas condamné à perpète. C'est en plus l'idée de son avocat. Et là, il est acculé. C'est-à-dire que la foule crie à mort devant la porte. Le procès-verbal où il avoue est un procès-verbal qui fait une page. Ouais. C'est pas énorme.
C'est une synthèse.
Hein. Il commence à 19h et il est clos à 7 ou 8h du matin. Et donc là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc entre 19h et 8h du matin, résume la conversation à une page.
Voilà, on la connaît pas. On la connaît pas, et effectivement, si vous voulez, c'est caractéristique des faux aveux. Moi, dans mon existence, dans ma vie professionnelle, j'ai connu plusieurs fois de faux aveux. Plusieurs fois. Et c'est toujours, au début, c'est toujours invraisemblable, on a l'impression qu'on va réussir à convaincre personne. Là, je crois qu'on pouvait les convaincre. Et assez rapidement. Parce que, une chose très simple, au début, quand il commence à avouer, il va avouer tout ce que les gendarmes connaissent déjà. Et puis, le procureur de la République, qui jouera un rôle très agressif dans cette affaire, le procureur de la République désigne d'autres gendarmes, qui sont les gendarmes de la police judiciaire d'Aix-en-Provence. Ces gendarmes ne connaissent pas les lieux, ils ne connaissent pas les faits. Et à partir de ce moment-là, Richard Roman ne dit que des choses qui sont contraires. Il dit « je suis parti par là », il dit « je suis parti à telle heure ». Et on s'aperçoit que là, il dit tout un tas de choses qui sont contraires à ce qu'il avait dit la première fois.
Aux gendarmes du coin.
Aux gendarmes du... Alors ça...
Sauf que les nouveaux gendarmes, enfin les gendarmes de loin, d'Aix-en-Provence, ils réalisent pas.
C'est des vrais pros, ils réalisent pas, ils n'ont pas connaissance du dossier, ils sont arrivés tout de suite à chaud, etc. Et là, il dit, et quant à l'audience, par exemple, je dirais à un gendarme, mais pourquoi vous n'avez pas dit qu'il y avait une tentative de strangulation, par exemple ? Mais il dit parce qu'on ne le savait pas. Je dis, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Ça, c'est très intéressant. Et c'est cette histoire extraordinaire d'un homme qui est acculé, entouré par un certain nombre d'autres hommes. Parle pas de violence. Enfin, il est quand même attaché tout nu à un mur.
Pendant l'interrogatoire ?
Pendant l'interrogatoire. Et donc, il est dans une situation où il veut en sortir, il veut en finir. Et là, il finit par comprendre qu'en avouant, il finira. Alors, il avoue mal, etc. Toute l'histoire est connue.
S'il avait eu un avocat, comme c'est obligatoire aujourd'hui,
mais
ça aurait tout changé.
Bien évidemment, ça changeait tout. C'est d'ailleurs une des affaires dont je me suis servi quand, en 2011, j'ai appuyé beaucoup les tentatives de réforme de la garde à vue permettant d'y avoir un avocat. Les faux aveux deviennent très rares aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais c'est très rare. Là, nous avons quelqu'un qui est seul et qui se met d'accord avec les gens qui sont autour de lui. Alors ça, c'était la première grosse difficulté. Et puis alors, il y avait l'atmosphère qui était épouvantable, si vous voulez. C'était effrayant, c'était très dur.
Et mais ça ne vous fait pas peur, vous, d'aller affronter...
Bah écoutez, ça ne me fait pas peur, c'est mon métier.
La populace vengeresse.
Écoutez, la peur, ça ne va pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire, la peur ?
Je veux dire que ça peut vous attirer aussi, que d'aller pourfendre l'opinion publique.
Mais ça m'a, d'abord, c'est terrible, si vous voulez, parce que, évidemment, vous avez la prise à partie, y compris dans la presse, qui est violente à votre égard, après compris, bon, que ça sera un coup, mais là, dans l'ordre de la reconstitution... Je vais avoir des coups quand même forts.
Alors justement, j'ai tiré de ce livre ce petit extrait que je voudrais lire. Il est une image qui me colle à la peau. Quand j'arriverai au bout de mon chemin, on ne verra pas un avocat plaidant avec passion, ni un militant haranguant des assemblées micro en main, mais un homme de 55 ans, échevelé, le visage couvert de sang, entouré de gendarmes. C'était le 16 juin devant le café de la Poste à la Motte du Caire, et ça me collera à la peau. Ça vous amuse en même temps.
Mais c'est-à-dire que, si vous voulez, évidemment, étant donné la façon dont toute cette histoire s'est terminée, c'est un souvenir d'un instant, mais un instant dur. Je n'ai pas eu une tentative de meurtre contre moi, mais enfin, j'ai reçu une tarte à la crème, ce qui aurait
été... Pour commencer.
Mais cette tarte à la crème a été envoyée avec l'assiette. Ouais. Et l'assiette s'est brisée sur mon visage et m'a coupé le lobe de l'oreille. Alors, le lobe de l'oreille, je ne le savais pas, c'est très spectaculaire.
Ça pisse le sang.
Ça pisse le sang. Mmh. Et puis alors là, j'ai essayé de me mettre à côté pour me débarbouiller dans les toilettes, ils ont enfoncé la porte, je me suis trouvé dans une salle, là j'ai reçu les pots de moutarde, des choses. J'avais ma jeune associée collaboratrice, d'ailleurs à l'époque, et qui sera mon associée après, Muriel Brouquet, qui faisait le coup de poing devant moi, qui va avoir un œil au beurre noir très vite. Et moi, je perds ma chemise, etc. On récupère tout ça. Et puis à le moment, les gendarmes, là j'essaye de me battre, mais c'est des gens qui ne veulent pas me tuer, mais ils veulent m'humilier, ils veulent me frapper. Et à un moment, la porte de la pièce est enfoncée par des gendarmes qui me prennent pour un manifestant, qui m'attrapent, je dis qui je suis, et là, ils m'emmènent...
Et ils vous protègent.
Ils m'emmènent manu militari, enfin, ils m'emportent à la gendarmerie où je me lave. Et bon,
mais ça dit aussi quelque chose sur le rôle de l'avocat qui n'a jamais été compris par l'opinion publique, ni dans cette affaire, ni dans d'autres. C'est-à-dire que les gens disent, l'avocat pense comme le criminel, et, voilà. Et donc il est un bout du criminel.
Mais non, mais bien sûr. Alors si vous voulez, le problème c'est qu'on défend quelqu'un qui est accusé d'une chose abominable. Mais je dirais que là, nous avons quelque chose, c'est qu'en plus cette personne est innocente. Et évidemment... La condamnation d'un innocent, c'est ce qu'il y a de pire. On le disait déjà, on l'a toujours dit, si vous voulez, le président Lamoignon au XVIIe siècle disait « Il n'y a pas de pire mal de la justice que la condamnation d'un innocent, il vaudrait mieux acquitter 1000 coupables ». Bon, c'est évident, ça, tout le monde le comprend, parce que la condamnation d'un innocent, c'est quand même effrayant. Mmh. Mais pour ceux qui ont subi la chose, il est coupable dans leur tête, et donc c'est très difficile. Vous avez quelqu'un qui le défend. Je dirais qu'en plus, lorsque la personne est convaincu d'avoir commis ces actes. Il faut encore le défendre. Il faut encore le défendre pour le ramener vers les êtres humains, pour montrer que cet homme, il va être jugé, mais il doit être jugé de façon strictement nécessaire, comme dit la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, là, l'avocat est dans une position qui est difficile, et pourtant, c'est un témoin de l'humanité, c'est nécessaire.
Il faut se rappeler du contexte, Henri Leclerc, 88. Donc François Mitterrand vient d'être réélu président de la République.
Absolument.
Quelques mois plus tôt. Vous êtes qualifié, d'ailleurs votre livre porte le sous-titre d'avocat militant.
Oui, je ne suis pas encore président de la Ligue des droits de l'homme, je ne serai que quelques années plus tard.
Avocat militant, supposé homme de gauche, oui, vous diriez homme de gauche.
Je le dis, oui.
Et donc, Joël Roman, de la revue Esprit, absolument, le frère de Richard, étant lui aussi un homme de gauche, vous un homme de gauche, Mitterrand au pouvoir, ça peut donner l'impression d'une espèce de connivence.
Tout ce que vous voudrez, bien sûr, bien sûr. Mais si j'ai le courage de le défendre, est-ce que c'est parce que ce qui, dans ma peau, dans ma vie, fait de moi un défenseur, un passionné des droits de l'homme qui m'amènera effectivement à la présidence d'une grande association. Si j'ai consacré ma vie à cela, en même temps, il est bien évident que vous devez comprendre à quel point c'est pour moi une nécessité. Et c'est une nécessité, quelles que soient les difficultés. Et je reconnais volontiers que cette affaire a été très difficile. Elle a été très difficile à porter. Il en faut des heures. Et quand on arrive à cette conviction absolue qui était la mienne de l'innocence de Richard Roman, vous imaginez le trac que l'on a quand on arrive à l'audience, de se tromper, de ne pas faire ce qu'il faut, de faire l'erreur qui vous amènera à condamner un innocent. C'est très dur pour un avocat. Ceci étant, c'est notre métier. Il n'y a pas d'héroïsme particulier.
Mais à votre avis, si Richard Roman n'est pas le frère de Joël Roman, si donc Richard Roman n'a pas pour avocat Henri Leclerc, si Richard Roman prend maître Tartampion, absolument numéroté dernier au barreau d'Aix-en-Provence, il est condamné?
Écoutez, j'en sais rien, ça dépend de l'avocat. Mais ça ne dépend pas seulement de l'avocat. Ça dépend des faits. Ça dépend du juge d'instruction. Car ce juge d'instruction,
c'est lui qui nous a encore d'audience. Du dossier.
Alors, bien sûr, ce juge d'instruction, j'ai discuté avec. Ce juge d'instruction, nous avons vu ensemble, par exemple, le film de reconstitution. Et nous nous sommes aperçus que ce film de reconstitution, dont tout le monde disait qu'il prouvait la culpabilité, prouvait au contraire l'innocence. Bon, ce juge d'instruction aurait pu faire le même chemin, peut-être. Ou un autre avocat, vous savez, il y a un certain nombre de circonstances. En tout cas, j'ai été l'avocat qui a été là. Bon, je l'ai été. Et j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon métier. Et si vous voulez, il est évident que ce métier est compliqué. Lorsque, par exemple, j'ai rédigé la grande note, juste avant l'ordonnance de non-lieu, qui résume les raisons pour lesquelles je crois à l'innocence, qui fait qu'on confronte les déclarations, tout ce qui s'est passé, les déclarations des gendarmes, les déclarations de tous ceux qui étaient dans ce vase clos. Là, j'étais parti en Grèce, à l'Innospécé, pour 15 jours.
Pour l'écrire.
Pour les vacances avec mes enfants.
Ah d'accord.
Non, ouais. Pour les vacances. Mais j'avais emporté mon dossier. Et j'ai passé les 15 jours dans la cave de la maison, parce que là, c'était un endroit qui était un peu frais, à travailler et à reprendre le dossier, mais ligne par ligne. C'est donc un travail qui est aussi pour ne pas se tromper. Dire voilà, je suis convaincu de ça, mais vérifions que ça marche bien et pour trouver d'autres points dans le dossier qui... Bon, donc c'est, le travail d'avocat est à la fois un travail intellectuel, un travail de réflexion, mais c'est aussi un travail de conviction et c'est vrai qu'on peut avoir affaire à une hostilité de l'opinion, mais c'est le métier. Faut faire un autre métier.
Les gendarmes.
Faut être avocat général.
Oui. Les gendarmes. 1988, vous avez plus de 50 balais. Moi, j'ai pas loin de 30 balais. Et j'ai le sentiment qu'à l'époque, la gendarmerie, la police, c'était des organismes sérieux, honnêtes. Et on découvre dans cette histoire, à travers ce témoignage au procès, que les gendarmes sont allés faire changer le témoignage de certaines personnes pour amener Richard Roman devant les assises. C'est stupéfiant.
C'est très caractéristique ce que vous dites là. Moi aussi, les gendarmes, d'ailleurs, je leur rendais. Les gendarmes sont des gens, surtout les gendarmes de village, enfin, ce sont des gens qui sont au service public, c'est un vrai service public. Seulement, la grande erreur du procureur de la République, c'est d'avoir confié aux gendarmes locaux
l'enquête.
L'enquête.
Oui, aujourd'hui, ça partirait...
Mais attendez, bien entendu, ça aurait dû partir dès le début à ceux qui sont venus après.
Oui.
Ces gens-là, c'est des gens du village. Et au fond de leurs convictions, ils partagent les convictions du village.
Et en de Gilbert Jourdan.
En plus de ça, ils n'aiment pas tellement Roman, parce que Roman, on le soupçonne de fumer du hache, les choses comme ça. Et donc, les gendarmes, c'est eux qui ont découvert la petite fille, morte.
Oui, ils ont l'image.
C'est eux, c'est ouais. La copine de leurs propres enfants.
Et c'est eux qui vont annoncer
aux parents que la petite fille est morte, c'est horrible. Donc les gendarmes, il fallait pas confier ça aux gendarmes. Quand Roman est entendu, il est entendu par ces gendarmes qui sont au comble de l'émotion, de la douleur, et donc qui perdent un peu de lucidité. Moi je crois que les gendarmes étaient tout à fait convaincus de sa culpabilité. C'est justement parce qu'ils étaient convaincus de sa culpabilité qu'ils ont par exemple été voir ce... J'entre pas sur les détails, Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains petits détails, mais ça n'a aucune importance. L'ensemble de ce que vous avez raconté est parfait. Quand ils vont voir ce type, ils disent « c'est pas possible, ce type nous fout notre enquête en l'air ». Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le voir et lui dit « monsieur, ils sont convaincus que Roman est un salaud ».
Grâce à vous, ce salopard va sortir.
Ce salopard va sortir. Oui. Ils le disent « bon, alors, c'est bien entendu une faute, c'est une erreur, etc. » Mais par un certain côté, je le comprends. Je ne veux pas me faire l'avocat des gendarmes, je n'ai pas été très gentil avec eux à l'audience, il faut bien le dire.
Non, mais c'est bien qu'on ait créé depuis les brigades de recherche.
Ah bah attendez, c'est essentiel.
Au niveau départemental,
c'est essentiel.
Régional,
c'est essentiel.
Qui travaille avec du
recul. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, d'autres choses. Il y a bien entendu cette garde à vue contradictoire avec la présence d'un avocat. Vous savez, il y aurait eu un avocat
au moment des
à la Mat du Caire. Normalement, c'est un avocat qui serait venu digne. Il aurait fallu qu'il vienne. Déjà, c'est compliqué hein, aujourd'hui, cette histoire-là. Il faut qu'il vienne. Et là, même le plus nul des avocats suffit à empêcher certains comportements. Vous savez, un vieil avocat comme moi, j'ai eu tellement de fois l'habitude d'avoir des gens qui se plaignaient d'avoir été l'objet de violences en garde à vue. Pour avouer, pour ceci, pour certains, j'ai même fait condamner la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour des violences en garde à vue. Mais ces violences en garde à vue, elles n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'un avocat, même s'il est nul, même s'il est idiot, il est là. Bon.
Et même s'il gêne un peu l'interrogatoire, disent les policiers.
Oui, alors le policier...
Notamment lorsque l'avocat dit de faire usage au droit de se taire.
Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est fondamental dans le problème, le droit de se taire. Ben, c'est idiot, d'ailleurs, on a forcément le droit de se taire, on ne peut pas vous forcer à parler. Mais le fait qu'on dise aux gens qu'ils ont le droit de se taire, ils peuvent se taire, c'est un principe fondamental qui vient plus d'ailleurs du droit anglo-saxon, des Anglais, que dans notre tradition inquisitoire. Mais et il faut le dire, donc c'est vrai que les gendarmes, bon, la vérité, c'est que je suis convaincu que la présence de l'avocat en garde à vue facilite l'émergence de la vérité.
Ah ben ça, c'est l'affaire qui l'illustre parfaitement.
Mais cette affaire l'illustre parfaitement.
Alors, il y a aussi la question, chez moi, c'est un sujet de préoccupation, parce qu'on la retrouve dans des centaines d'affaires criminelles, les mutations permanentes des juges d'instruction. Il s'en est fallu de peu qu'au fil des changements continus de juge d'instruction, cette affaire n'aboutisse jamais.
Mais c'était épouvantable. Je sais pas, au début, là, les 27 premiers mois de détention, vous y êtes à l'heure, après, il en a une vingtaine d'autres. Bon, il a eu 47 mois de détention. Ouais. La Cour de cassation lui a accordé une indemnité de 100 000 francs. Bon. C'est pas terrible. Mmh. Mais le juge, alors, on a un premier juge qui est une jeune juge, 25 ans, la plus jeune de France.
Oui, c'est ce que vous dites dans votre bouquin.
Alors,
c'est
elle va être fiancée, elle va partir avec quelqu'un, elle va se marier, elle va avoir
un autre,
un troisième. De temps en temps, on voit réapparaître le juge des enfants, c'est lui qui est à la Constitution, qui sera très bien d'ailleurs. Et puis un autre. Et puis finalement, ce juge d'instruction qui va reprendre tout le dossier. On a eu beaucoup de chance d'avoir ce juge d'instruction qui reprenne tout le dossier. C'était très important parce que la Chambre de l'instruction a fait n'importe quoi, faut bien le dire. Et il y avait une telle pression de l'opinion. Vous savez que quand l'affaire est venue devant la cour d'appel après le non-lieu, on ne savait pas comment me faire entrer au palais de justice. Je suis entré par les souterrains.
Inouï. Oui, mais c'est... Comment fait-on ? Puisque on peut expliquer ça. Les juges, pour bénéficier d'avancement, sont obligés de muter.
Mais oui.
Bon. Par ailleurs, il y a les congés maternité, les arrêts maladie, les mariages, vous venez d'en parler. Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer qu'un juge qui prend un dossier va le mener jusqu'au bout, nom de Dieu ?
Je crois que ça doit faire partie des réformes, mais vous savez, la réforme de la justice, de la procédure pénale, moi c'est un problème sur lequel j'ai beaucoup travaillé, depuis longtemps, j'y crois, j'ai participé à la grande commission d'Elmas Marty qui avait proposé la suppression du juge d'instruction, un autre système. Bon, mais je pense effectivement qu'une réforme globale de la procédure est nécessaire. Alors, le nouveau garde des Sceaux a promis, je pense avec l'accord et même peut-être sur la suggestion du président de la République, des états généraux de la justice.
La solution, c'est peut-être la co-saisine, c'est-à-dire deux juges saisis en même temps. S'il y en a un qui part, au moins il reste l'autre.
Moi, je pense plutôt qu'il faut permettre que le parquet lui-même fasse des enquêtes, mais avec présence de la défense. C'est-à-dire que...
À l'américaine.
Alors, je ne veux pas entrer dans le détail, c'est pas à l'américaine, mais il y a des modifications possibles, on devrait y réfléchir.
En tout cas, le parquet, il peut muter aussi.
Notre système, avec aujourd'hui la co-saisine, bon, on peut discuter éternellement de ce système. Mais il est évident qu'on voit dans cette affaire et dans d'autres...
Que c'est un frein.
On voit la malfaçon de notre procédure. Et on a essayé de l'améliorer un peu. Si vous voulez, maintenant, par exemple, ce n'est plus depuis 2002, ce n'est plus le juge d'instruction qui place en détention.
C'est le juge des libertés.
C'est le juge des libertés. Donc on a créé ce nouveau juge auquel on a fini, après des années et des années, par donner un statut, qui est le juge des libertés. Ça, c'est une réforme qui était une réforme indispensable. On était en contradiction avec tous les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais enfin, il y a ça, il y a eu d'autres modifications. La co-saisine, il n'empêche que je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore pas parfait. Loin de là, il y a eu l'avocat en garde à vue, qui me paraît être une réforme essentielle.
Alors, j'ai noté que vous n'avez pas été garde des Sceaux.
Non. Alors, vous l'avez bien noté.
En tant qu'homme de gauche, pas de peau, c'est Badinter qui vous pique la place.
Oh bon, non, c'est pas
de
Badinter.
81.
Attendez, Badinter était.
À 95.
Personne ne pouvait être plus habilité que Badinter. Mais pas au de moment peau. Où le président, au moment où François Mitterrand venait dire ma conscience m'impose de supprimer la peine de mort, quelle que soit l'opinion publique, un acte très courageux, il est évident que Badinter. son ami Badinter, moi je n'étais pas. Vous savez, j'ai fait un peu de politique dans ma jeunesse, dans le parti de Michel Rocard qui s'appelait le PSU. Mais après, j'ai plus fait de politique politicienne. J'ai fait.
Vous manquiez de réseau, vous voulez dire?
Non.
Non.
Non, j'ai pas eu
ça
envie.
Ça s'est posé la question?
Non, j'ai pas eu envie. J'ai fait dans ma jeunesse et à un moment j'ai arrêté parce que ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait.
Donc par exemple, parce qu'il y a une fenêtre quand Jospin devient Premier ministre.
Oui.
Il peut penser à vous à ce moment-là, je veux
dire. Mais non, il pense pas à moi. Pourquoi? Parce que il sait forcément et tout le monde sait forcément que ça ne me fait pas envie. C'est-à-dire que on me reprochera effectivement d'être un homme qui parle et pas d'un homme qui fait. Mais le problème est de savoir quelles sont les aptitudes de chacun. Et je ne suis pas certain que je sois fait pour faire de la politique et pour... je suis beaucoup plus fin. Je ne suis pas fait pour exercer le pouvoir, mais plutôt pour dénoncer les excès. Voilà.
Vous reconnaissez que c'est plus confortable.
Mais je ne le dis pas. J'ai pris la solution la plus confortable. Mais vous savez, quand vous défendez Roman, on peut dire tout, mais on ne peut pas dire que c'est confortable.
On est d'accord. J'aimerais bien vous entendre sur Éric Dupond-Moretti, qui est donc, lui aussi, un homme de gauche à l'origine, qui consent, lui, à devenir garde des Sceaux, qui était un avocat extrêmement brillant, peut-être le meilleur de sa génération. Comment est-ce que vous jugez son passage de la position d'avocat à la position d'homme politique?
Ben, premièrement, ça me montre que jamais j'aurais pu faire ça. Deuxièmement...
Parce qu'il avale des couleuvres.
Parce qu'inéluctablement, il avale des couleuvres. Inéluctablement, si vous voulez, même... Je pense que même Badinter, si dans les 6 premiers mois, ce qu'il a fait était extraordinaire, à un moment, je me souviens très bien qu'à cette époque, même à un moment, à la fin, en 85, hein, j'ai critiqué la politique du ministère de la Justice à l'égard des prisons. Bon, comme c'est un ami proche, hein, il m'en a beaucoup voulu. Mais donc, si vous voulez, la politique nécessite des compromis. Je ne dis pas des compromissions, vous voyez, je dis des compromis. Elle nécessite effectivement de construire un certain nombre de choses. Moi, je dénonce les excès, je me sens plus apte à faire cela.
Mais il est décevant, Dupond-Moretti ?
Non, écoutez, j'attends. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. C'est-à-dire que pour l'instant, il a des projets. Il a ce projet qui a été suggéré par le président de la République des États généraux de la justice. Moi, j'y participerai, s'ils viennent, bien sûr. Moi, je n'ai rien contre. Hein. Si ça peut faire progresser les choses, j'irai bien évidemment. Je fais pas de politique sur ce sujet. Et Dupond-Moretti, moi, j'attends de voir, effectivement, dans la conduite des affaires du ministère de la Justice, je ne vois pas de reproche à lui faire. Laissons tomber, si vous voulez, ce qu'on lui reproche pour d'autres choses.
Oui.
Bon, ça, c'est pas le problème, mais c'est un avocat remarquable. Hein,
On est d'accord.
Non, bon, attendez, c'est un avocat remarquable. Bon, c'est pas seulement des affaires qu'il a gagnées, c'est que moi, je le connais bien, hein, très bien, je l'ai connu tout jeune, mais je le connais bien. Et c'est un avocat remarquable. Il a accepté ça. Moi, j'étais un peu surpris.
Moi aussi.
Voilà.
Lui aussi, je crois.
Non, mais en tout cas, moi, je l'ai vu. Je crois qu'il est assez content. Il essaye de faire. Il va faire son travail. Mais j'attends, si vous voulez, maintenant, les petites réformettes qu'il y a eu jusqu'à présent. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. J'en ai énoncé certaines, d'ailleurs. Mais il y a ce grand projet d'État généraux de la justice. Bon, on verra ce qu'il fait. Vous savez, les ministres de la justice, moi, j'en ai connu beaucoup.
Oui. Hein,
bon, j'ai eu des mailles à partir avec certains d'entre eux, ça n'a pas été facile toujours, il y en a certains avec lesquels j'ai été en conflit, il y en a d'autres que j'ai... Bon, Badinter, c'était un ami de 30 ans, bon, c'était bien sûr, mais puis le combat commun qu'on avait mené, à la fois contre la peine de mort ou contre la loi sécurité et liberté, nous rapprochait beaucoup. Arpaillon, j'ai eu de très bons rapports avec Arpaillon, j'ai pas eu de mauvais rapports avec la plupart des gardes des Sceaux. J'ai eu de très bons rapports avec Christiane Taubira, ça ne vous étonnera pas.
Non plus. Je peux dire votre âge?
Oui.
87 ans.
Absolument.
Jusqu'à quel point
vous
travaillez encore?
Ah ben vous savez, non, je ne travaille plus, hein, j'ai pris ma retraite.
Du tout?
Ah non, attendez. J'ai pris ma retraite. Et je travaille, mais enfin, vous savez, on commence à 87 ans à faire un peu attention à des problèmes.
De santé.
Je vois mal. il y a un certain nombre de choses de ce genre qui font que le métier d'avocat pénaliste essentiellement. Bon, j'ai eu deux grandes spécialités, la presse et le droit pénal.
Oui.
Et le métier d'avocat, quand on est un avocat d'audience, quand on est extrêmement fatigant, très dur, très physiquement difficile. Et donc, il y a un moment où il faut se dire, attention, il ne faut pas plaider l'affaire de trop.
Hein, mais ça vous manque.
Évidemment, évidemment. Mais j'essaye de faire avec, contre mauvaise fortune, mon cœur, et puis je fais d'autres choses, j'essaye d'écrire, je parle, je viens vous parler, je parle à d'autres, j'essaye de transmettre ce que je sais à d'autres.
Merci infiniment, Henri Leclerc, d'avoir accepté de débriefer l'une de ces histoires qui a marqué votre carrière. Et je rappelle ce livre, ce gros livre qui paraît aux éditions Pluriel, La parole et l'action, sous-titre itinéraire d'un avocat militant.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.